Bonjour, monsieur le ministre Patrick Mouyaya.
Bonjour.
Vous avez pris part à la 47e session de l'examen périodique et universel du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Quelles sont, selon vous, les opportunités que ce forum a accordées à la RDC sur le plan des droits de l'homme ?
La première opportunité, c'est que nous avons eu l'occasion d'expliquer au monde entier le progrès que nous avons connu en 4 années depuis la dernière tenue de l'examen périodique universel qui nous concernait. Les mondes a noté avec nous que nous avons fait beaucoup de progrès.
Pouvez-vous résumer en 5 ans les promotions sur le plan des droits de l'homme réalisées par les gouvernements ?
Mais ce serait justement difficile de résumer le tout parce que je vous ai donné, s'il faut parler par exemple de la loi Mouyaya qui concerne la liberté de la presse, la loi portant protection des défenseurs de droits de l'homme ou encore la loi portant protection des peuples autochtones ou des personnes vivant avec handicap. Il ne s'agissait pas seulement de parler de ces lois, mais il s'agissait aussi de regarder par exemple la représentativité de la femme. Aujourd'hui, nous avons une femme qui est première ministre chef du gouvernement et donc le monde a eu l'occasion de nous écouter sur le progrès que nous faisons, mais aussi sur certains défis qui nous restent à relever, notamment sur la question centrale de la sécurité à l'Est, qui constitue pour nous l'épicentre de toute la concentration des violations massives des droits de l'homme, mais que pour tout ça, nous sommes engagés à relever les défis. Lorsque vous regardez la République démocratique du Congo, sur tous les plans, vous vous rendez compte qu'il y a un État qui veut donner des réponses. Lorsque nous faisons la gratuité de l'enseignement, lorsque nous faisons la couverture santé universelle, ça veut dire que l'État s'engage à payer là où les parents n'ont pas.
Revenons sur la loi Mouyaya. Qu'en est-il de la vulgarisation et des mesures d'application de cette loi qui consacre la responsabilité pénale, civile, des journalistes et autres professionnels?
Écoutez, sur cette loi, d'abord, c'est une loi qui est le fruit d'une concertation. Parce que nous avions tenu sous la présidence du président de la République lui-même les états généraux de la communication et de médias en janvier 2022 et nous nous avons pris l'engagement d'une part de faire la salubrité médiatique. Et la recommandation principale pour nous était de faire une nouvelle loi. La loi a été faite qui consacre notamment en article 112 un pas vers la dépénalisation parce qu'il est dorénavant obligatoire que lorsque vous arrêtez un journaliste dans l'exercice de son métier, je précise, que vous vous assurez, par exemple, au cas où il a lésé une personne, que cette personne a usé de son droit de réponse et que ce droit de réponse vaut réparation. Bon, encore que là, j'en ai parlé au cours des états généraux de la justice où j'ai sensibilisé les magistrats sur la nécessité pour eux d'en tenir compte. J'ose pas penser que les magistrats n'étaient pas déjà au courant de la loi parce qu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi et surtout pas ceux qui doivent le rendre. Et dans cet ordre-là, nous avons aussi fait un progrès qui était l'une des recommandations majeures des états généraux. C'est l'appui à l'Union nationale de la presse du Congo qui dispose d'un bureau aujourd'hui qui nous permet d'avoir des interlocuteurs, notamment pour voir dans quelle mesure on peut mettre en place un tribunal de pair pour juger tous les cas des dérapages de journalistes et éviter que les journalistes ne puissent être arrêtés, en tout cas les journalistes, les vrais, ne puissent être arrêtés dans les cas de l'exercice de leur métier ou ne puissent subir des cas des violences. De toute évidence, nous, sur ces questions, nous serons vigilants.
L'État congolais appuie plusieurs secteurs de la vie. Pourquoi la presse semble être laissée pour compte? Je vais parler de la subvention.
Je ne suis pas sûr que la presse est laissée pour compte parce qu'il y a un gros travail à faire. Nous, quand je parle de salubrité médiatique, cher Blaise, de quoi je parle? Il y a beaucoup des médias qui exercent, qui ne sont pas connus de l'État. Comment pensez-vous que l'État peut vous aider s'il ne vous connaît pas? Ça veut dire que vous n'avez pas répondu au béaba des questions administratives. C'est la situation sur laquelle nous sommes en train de retravailler encore parce qu'on avait déjà commencé à y travailler. Et dans la loi, on a consacré un régime d'avantages qui nécessite, par exemple, des arrêtés interministériels parce qu'il faut regarder comment on réduirait, par exemple, le obligations de taxes des redevances que payent les organes de presse. Donc il y a un travail en cours au niveau du gouvernement qui devrait non seulement concerner toutes ces parties en termes d'appui parce qu'il faut arriver à avoir des médias viables, mais cher Blaise, la difficulté que nous avons, c'est aussi le contexte général de pauvreté, parce que les médias, plus personne n'en paye le prix. Aujourd'hui, lorsque je sors, je ne vois presque plus des titres de journaux, alors qu'à l'époque, c'est pour ça que je conviens avec vous qu'il est important pour nous, gouvernement, que nous puissions donner des réponses pour nous permettre d'avoir des médias viables.
Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
C'est moi qui vous remercie.